France Info.
Avec des températures qui sont en baisse parce qu'aujourd'hui, on a encore cette grande douceur. 17 à 18 degrés, un petit peu partout.
On en profite. Merci beaucoup Christine Peña. Merci à tous d'être à l'écoute de France Info. Il est 5h. Et à la une ce matin, Emmanuel Macron demande à Israël de ne pas mener une offensive terrestre au Liban. Le chef de l'État a échangé directement avec le Premier ministre israélien, une première depuis l'été dernier. Les frappes israéliennes, iraniennes, israéliennes et américaines se poursuivent encore cette nuit. Le détroit d'Ormuz est toujours bloqué. La crainte d'une hausse des prix des carburants augmente en France. Il faudra payer plus cher pour des heures de conduite, préviennent déjà les auto-écoles. L'incompréhension à La Rochelle, encore ce matin, un collégien en a poignardé un autre, ses jours ne sont pas en danger. Et puis du rêve au cauchemar, l'Olympique de Marseille sorti de la Coupe de France de football par Toulouse en quart de finale. La situation reste très instable au Moyen-Orient ce matin, même si les États-Unis affirment être en position de force en Iran. Téhéran réplique toujours, vise Israël et des positions américaines dans les pays du Golfe. Un quatrième conseil de défense s'est tenu hier autour d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Le chef de l'État qui s'est d'ailleurs entretenu avec les dirigeants américains et israéliens. Une première depuis le début du conflit, Aurélie Herbemont.
Emmanuel Macron l'a reconnu samedi, la France n'avait pas été prévenue des frappes contre Téhéran. Hier, au cinquième jour du conflit, Donald Trump a finalement appelé son homologue français pour l'informer de l'état des opérations militaires menées par les États-Unis en Iran. Le chef de l'État a aussi échangé avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, une première depuis l'été dernier, et la décision d'Emmanuel Macron de reconnaître l'État de Palestine, ce qui avait mis en colère Israël. Le contact est donc renoué avec un point crucial sur lequel Emmanuel Macron a alerté Benjamin Netanyahou comme Donald Trump, le sort du Liban. Le président français appelle Israël à s'abstenir d'une offensive terrestre. En parallèle, Emmanuel Macron souhaite que le Hezbollah libanais cesse ses attaques contre Israël, car à ses yeux, cette stratégie d'escalade met en péril l'ensemble de la région.
Aurélie Herbemont, service politique de France Info. Pour le moment, l'armée israélienne poursuit ses opérations au Liban, à Beyrouth notamment, et l'armée progresse dans le sud du pays. Plus de 80 000 personnes ont fui les combats en seulement quelques jours. Beaucoup avaient déjà fui il y a un an et demi lors de la précédente guerre. Près de 400 abris ont été mis à disposition dans le pays, mais les moyens déployés semblent largement insuffisant, Étienne Monin.
L'épuisement se lit sur le visage de Jamal. Lundi, cette mère de famille a dormi avec les siens dans une voiture. Elle connaît cette école parce qu'elle y était déjà en 2024. Elle est au bord des larmes.
C'est sûr, on est sorti de notre maison sans rien.
Cette école pour déplacés est gérée par des militants d'un parti proche du Hezbollah. Ils disent qu'il y a presque 600 personnes. Aziza est aussi à bout. Elle a le sentiment d'avoir été abandonnée.
Les gens ont risqué leur vie pour aller à la banlieue sud sous les bombardements afin d'apporter des matelas et des couvertures, car personne ne nous en a procuré. On dirait que le gouvernement n'est pas intéressé.
Tous les gens qu'on rencontre viennent des bastions du Hezbollah. Pourtant, Nassima lâche sa colère contre l'entrée de la milice dans la guerre.
Ce n'est pas bien, c'est haram. C'est une grande faute, une grande faute. Nous ne voulons pas cette guerre.
Cette guerre divise la base du Hezbollah, mais dans cette école, un militant téléphone à la main nous dit « pas de politique, l'humanitaire est la priorité ».
France Info reportage d'Étienne Monin, envoyé spécial de France Info à Beyrouth. Cette nuit, des explosions ont de nouveau été entendues à Jérusalem après des tirs de missiles iraniens, mais il n'y a pas de blessés. Par ailleurs, le Qatar annonce l'évacuation par précaution des résidents se trouvant près de l'ambassade américaine après de nouvelles frappes iraniennes. En France, la conséquence directe de ce conflit se voit dans les stations-service. Les prix ont déjà commencé à augmenter de quelques centimes après une forte augmentation du prix du baril sur les marchés. Le ministre de l'économie convoque tout à l'heure à 11h au ministère les distributeurs de carburant. Il veut vérifier que les hausses de prix ne sont pas trop importantes, qu'elles correspondent aux hausses dues à la guerre. Les professionnels du secteur des transports s'inquiètent déjà, comme les auto-écoles. Patrice Besson du syndicat patronal Mobilience prévient, il y aura forcément des hausses de prix pour les clients.
Obligatoirement pour les écoles de conduite, ça a une conséquence. On utilise beaucoup de carburant, nous. C'est un métier où c'est une matière première. Et donc, effectivement, ces coûts, in fine, sont toujours répercutés sur le consommateur. On a une représentation sur l'heure de conduite par rapport au cours du carburant. C'est 10%. Donc, vous voyez, c'est pas négligeable. Donc l'augmentation aura obligatoirement une répercussion qui va être de 1, 2 ou 3 euros de plus en heure de conduite.
Pour le moment, le prix moyen actuel du gazole est d'1,86€ par litre, 1,83€ pour le samplon 95. Les pénuries très peu nombreuses se concentrent dans certaines zones du pays, le Pas-de-Calais, le Nord et les Bouches-du-Rhône. France Info, il est 5h05, une nouvelle agression au couteau dans un établissement scolaire hier à La Rochelle. Un élève de 4e a poignardé un de ses camarades en plein cours. Mathilde Lemaire, il n'y avait eu aucun signe avant-coureur.
L'acte semble avoir été impulsif de la part d'un garçon de 13 ans qui n'a aucun antécédent judiciaire. Alors qu'avait débuté le cours de physique-chimie dans la classe de 4e, il a sorti un opinel et poignardé un camarade du même âge que lui à l'épaule et à l'abdomen, cela devant 24 élèves forcément choqués. Il n'y avait entre ces deux garçons a priori pas de différend. La professeure s'est interposée, l'adolescent auteur des coups de couteau a été mis à l'écart puis interpellé par les policiers arrivés rapidement sur place. Il a passé la journée d'hier en garde à vue pour tentative de meurtre. Une enquête sous l'autorité du parquet de La Rochelle. Le garçon victime hospitalisé est dans un état sérieux, mais ses jours sont hors de danger. Dans ce quartier paisible, dans cet établissement plutôt ordinaire, de tels faits ont glacé les élèves comme leurs enseignants et leurs parents. Ce matin, de nouveau, ils seront accueillis dans l'établissement par les professionnels de la cellule d'urgence médico-psychologique rapidement mise en place.
Les précisions de Mathilde Lemaire sur France Info. L'ancien maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau, est remis en liberté. Lui qui a été condamné à 4 ans de prison ferme pour avoir fait chanter un élu à l'aide d'une vidéo intime. La justice accepte sa demande de remise en liberté conditionnelle en attendant son procès en appel en juin prochain. 16 personnes interpellées cette semaine en France, dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes et en Île-de-France. Toutes sont soupçonnées d'avoir participé à la séquestration d'un jeune homme, un Suisse âgé de 22 ans en août dernier. Le but était d'obtenir une rançon en crypto-monnaie. Il avait été blessé au cutter, notamment le raid était intervenu pour le libérer près de la gare de Valence. Début septembre, 7 premiers suspects, dont un mineur de 17 ans, ont déjà été mis en examen et placés en détention provisoire dans cette affaire. Le Brésil ratifie l'accord commercial entre l'Union européenne et les pays du Mercosur, traité qui doit créer l'une des plus grandes zones de libre-échange du monde. Le Parlement paraguayen doit encore le valider. La semaine dernière, la présidente de la Commission européenne a annoncé que l'accord serait appliqué de façon provisoire, décision critiquée par la France. Il est perçu comme une menace, notamment par les agriculteurs français. Et puis les supporters de l'OM dépités ce matin. La Coupe de France, ça ne sera pas pour cette année. Ils ont été éliminés en quart de finale hier, défaite contre Toulouse lors d'une séance de tir au but au Vélodrome. Il y avait 2-2 à la fin du temps réglementaire. Cela fait tout de même 37 ans que le titre échappe à l'Olympique de Marseille. Jean-Pierre Blimeau.
Des sifflets descendent des tribunes et des fumigènes sont lancés sur la pelouse alors que les joueurs font le tour du terrain pour remercier quand même leurs supporters. La fin de match est difficile pour les fans de l'OM dépités comme Nathan.
Ça fait je sais pas combien d'années qu'on gagne plus un trophée. Il y a une occasion en or et on la gâche encore une fois. Surtout après cette saison, après toutes les déceptions, encore une fois, c'est plus possible.
Le dernier titre remonte à 2012, une Coupe de la Ligue. Quant à la Coupe de France, que l'OM n'a plus gagnée depuis 1989, elle était plus que jamais dans le viseur. C'est pourquoi la défaite est aussi amère pour les joueurs, explique le défenseur Facundo Medina.
Même à moi, elle m'a fait trop mal, personnellement. C'est pas possible qu'on prenne deux buts pareils. Moi aussi, je attendais gagner cette Coupe. Après, c'est le foot, ça arrive.
Pour le nouvel entraîneur Habib Bey et ses joueurs, il ne reste qu'un objectif, finir sur le podium de la Ligue 1 pour retrouver la Ligue des Champions.
C'est sûr que là, la déception ce soir est très 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 importante, donc il va falloir qu'on arrive à faire en sorte qu'on puisse évacuer cette déception le plus rapidement possible.
Ironie du sort, Habib Bey a été éliminé deux fois de la Coupe de France cette saison au Stade Vélodrome, hier soir et au tour précédent quand il était encore entraîneur du Stade Rennais.
Jean-Pierre Blimeau, et ce soir c'est l'Olympique Lyonnais qui joue contre Lens en quart de finale, ce sera à partir de 21h10. Il est 5h09 sur France Info, Christine Peña est de retour en studio pour la météo et vous nous dites qu'il y a de la douceur qui reste marquée aujourd'hui.
Mais oui, alors toujours cette grande différence, on met quand même les manteaux le matin parce qu'il fait frisquer le matin, mais l'après-midi...
Et après, on se découvre.
Mais voilà, l'après-midi, effectivement, on a envie de tout enlever. Hein. 18 à Lille,
on garde quand même quelques
à Lyon, oui, on garde quand même. 18 à Limoges, La Rochelle, Montpellier, jusqu'à 19 à Reims, comme à Bordeaux, Clermont-Ferrand également, 19 à Marseille, à Toulon. On aura 20 degrés cette fois à Grenoble et puis on les dépassera, mais dans le sud de la Corse, 22 à Ajaccio pour cet après-midi.
Merci beaucoup Christine Peña.
France Info, première plateforme d'actualité. Source Médiamétrie Net Ratings.
Chaque jour, vous êtes 4 millions à vous informer sur franceinfo.fr et l'appli France Info.
Merci pour votre confiance.
Une info fiable et vérifiée.
France Info, première plateforme d'actualité.
France Info poursuit son édition spéciale autour de l'Iran. Donald Trump assure que les États-Unis sont en position de force. Les frappes avec les Israéliens se poursuivent. France Info reportage auprès de Français qui craignent une forte augmentation des carburants dans les prochains jours. Mais d'abord, quelles sont les conséquences directes de ces frappes sur la population iranienne ?
France Info, édition spéciale, Maureen Suignard.
Il justifie une nouvelle fois la guerre depuis la Maison Blanche. Donald Trump assure que les États-Unis sont en position de force avec l'Iran. Les Américains et les Israéliens affirment que le nombre de missiles iraniens tirés diminue chaque jour. Pourtant, pendant la nuit, Israël a de nouveau été en alerte après de nouveaux tirs iraniens. L'État hébreu continue de pilonner l'Iran, notamment la capitale. Alors à quoi ressemble la vie à Téhéran, particulièrement ciblée par les bombes ? Le réseau Internet est toujours coupé, donc il reste très difficile de recueillir des témoignages. Mais Caroline Félix, vous avez pu avoir quelques échanges avec des Iraniens.
Ces messages que nous avons reçus décrivent un Téhéran qui s'est vidé, où ceux qui restent sont confinés chez eux et où les explosions régulières font vibrer les fenêtres des immeubles. Comme le montre cette vidéo envoyée par un journaliste iranien. Sortir de chez soi, nous dit un habitant de Téhéran, ça veut dire scruter le ciel, faire de longs détours pour éviter les cibles des raids, c'est-à-dire les commissariats ou les installations militaires. Cet homme se dit très stressé dès qu'il prend le volant. Il nous décrit aussi la joie qu'il a entendue samedi après la mort d'Ali Khamenei et qui a laissé place à de nombreuses patrouilles de militaires sur les artères principales. Une autre habitante nous écrit la peur d'envoyer son fils à l'école car la nuit, le bâtiment sert désormais de dortoir aux forces paramilitaires Basij. Face au danger, le sentiment est confus. Deux hommes nous disent qu'ils ont confiance en la précision des frappes et qu'ils les soutiennent. Ali, un trentenaire de l'Est de Téhéran, se dit partagé. Nous avons fait lire son témoignage.
Nous sommes sous pression, mais nous gardons espoir en l'avenir. Nous attendons la fin de cette guerre pour parvenir à une situation stable, à un Iran libre. Nombre d'Iraniens, moi y compris, n'aurions pas peur de mourir dans ce contexte si notre mort signifiait la liberté de l'Iran et une vie meilleure pour les générations futures.
Quant à la vie économique de la capitale, les témoignages évoquent des prix en hausse et certaines entreprises ou magasins qui ont baissé le rideau, bien loin de l'effervescence qui règne habituellement dans le pays à cette période, à 2 semaines de Nowruz, le nouvel an perse.
Caroline, vous n'avez pu avoir que des témoignages écrits, c'est compliqué d'avoir des nouvelles sur place ?
Le réseau ne fonctionne qu'à 1% de sa capacité, impossible ou presque d'envoyer des photos, des vocaux. Le blocus d'Internet quasi total est imposé par le régime depuis le début de la guerre. Cette coupure touche également le réseau mobile. La plupart des Iraniens en France n'ont pas de nouvelles de leur famille depuis samedi. Les témoignages sont rares donc pour des raisons techniques, mais aussi pour des raisons de sécurité. Les Iraniens qui nous écrivent prennent de gros risques car dans leur pays, parler à un média occidental est considéré comme un crime.
Caroline Félix, sur France Info. Ce matin, le trafic maritime est toujours paralysé dans le détroit d'Ormuz, détroit stratégique pour le commerce, notamment le pétrole. Le détroit est sous contrôle total de la marine iranienne, affirme Téhéran. Avant-hier, Emmanuel Macron a annoncé l'arrivée prochaine du porte-avions Charles de Gaulle en Méditerranée, notamment pour sécuriser ce détroit. Mais l'utilité du porte-avions variera en fonction de son emplacement, explique l'amiral Richard Villemot-Roussel, ancien commandant du porte-avions Charles de Gaulle.
Tout dépend de l'endroit où on va le faire patrouiller, parce qu'il y a la zone Méditerranée et puis il y a la zone Océan Indien. Donc ça, je ne sais pas encore quelle sera la zone qui sera réservée pour le porte-avions. Si c'est la zone Méditerranée, eh bien, il sera plus concerné par une présence française dans cette zone. Vous savez que Chypre a reçu, a été menacée, donc Chypre, c'est bien sûr dans l'Union européenne et je pense que le porte-avions va porter un petit peu une mission européenne et il sera peut-être là pour surveiller l'espace maritime qui se trouve à proximité de Chypre. Donc ça peut être un des positionnements du bateau. L'autre positionnement, ça peut être l'océan Indien. Et à ce moment-là, si c'est l'océan Indien, ce sera par exemple pour assurer la sécurité des bateaux dans le détroit d'Ormuz. Il y a quand même une grande partie du monde qui ont besoin de pétrole de cette zone. Et si on veut que l'économie mondiale ne s'écroule pas complètement, il faut qu'on continue à ce que le trafic commercial dans le détroit d'Ormuz s'exerce. Et à ce moment-là, le porte-avions pourra, avec ses avions, avec son escorte, et peut-être avec d'autres bâtiments d'autres pays, soit européens, soit de la zone, faire en sorte que le détroit d'Ormuz reste ouvert au transport maritime.
Amiral Richard Villemont-Roussel, le ministre de la Défense américain Pete Hegseth a tenu aujourd'hui une conférence de presse et a affirmé que les Iraniens étaient aux abois, que les États-Unis ont déjà pris nettement le dessus depuis le début de la guerre.
On commence à connaître un petit peu, hein. Bon, c'est toujours effectivement avec des mots très, très guerriers, très
conventionnels.
Bon, c'est son style. Bon, c'est très bien. Il félicite effectivement le travail qui a été fait essentiellement par l'aviation et le tir de missiles. C'est un satisfecit qui mérite de recevoir parce qu'effectivement. Les Israéliens et les Américains ont fait, un beau travail depuis 4 jours. Le ciel est à eux maintenant, et ça, c'était important pour pouvoir poursuivre les actions qu'ils souhaiteraient poursuivre. Car quand on mène une opération, la première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut essayer de faire en sorte que le ciel vous appartienne, de façon à ce que vous puissiez opérer par le haut, puisque avec les avions, vous pouvez aller atteindre des cibles beaucoup plus lointaines.
Hier, dans l'océan Indien, un sous-marin américain a coulé un navire de guerre iranien qui pensait être en sécurité dans les eaux internationales. Il a été coulé par une torpille. Au moins 87 marins sont morts, 61 disparus recherchés et 32 marins blessés secourus par les autorités sri-lankaises. D'abord, un mot sur cette attaque. Quel est le but ?
Alors, écoutez, c'est quelque chose qu'il faut analyser, à mon avis, avec beaucoup de soin. Je suis certain qu'il a fait sans doute demander un blanc-seing de son état-major parce qu'il savait que c'était un bateau. Bon, c'est un bateau qui n'est pas très armé. C'est un bateau qui avait un équipage d'environ 130 personnes et il savait qu'à partir du moment où il tirait de torpille, eh bien, il y aurait peu de survivants. Donc, je pense que le commandant de ce bateau a dû se retourner vers ses autorités pour savoir si effectivement il fallait ou pas torpiller ce bateau. La décision a été prise par sans doute ses autorités et donc il a effectivement détruit le bateau avec les conséquences que vous avez citées, qui sont quand même des conséquences assez lourdes. Je pense que c'est un geste très politique, plus que militaire. C'est peut-être pour montrer la détermination des Américains dans des situations comme celle-là, qui ne font pas de quartier et qui ont décidé d'aller jusqu'au bout. En tout cas, c'est comme ça que je l'analyse. Le plan militaire, ça correspond pas à une difficulté majeure. C'était vraiment du baltrap et donc c'était pas une difficulté majeure. Mais je pense que c'est un signal politique que les États-Unis ont voulu lancer à la communauté internationale et plus particulièrement à l'Iran.
L'amiral Richard Villemot-Roussel avec Julien Langlais dans le 21h minuit de France Info. Le gouvernement a beau le répéter, il n'y a pas de risque de pénurie. Des Français se ruent dans les stations-service pour éviter de payer l'essence plus cher. Les distributeurs seront avec le ministre de l'économie aujourd'hui et veulent s'assurer que les prix ne s'envolent pas. France Info reportage à Belfort dans une minute après le récap de l'actu dans un instant.
France Info, 5h-6h.
Et à 5h20, c'est l'info avec Laura Dulieu. Et à la une ce matin, le Liban, toujours sous les bombes israéliennes.
Avec de nouvelles frappes cette nuit sur le sud de Beyrouth. 3 personnes ont été tuées hier dans la capitale. Plus de 80 000 ont dû partir de chez elles depuis lundi, alors qu'Israël élargit le champ de ses attaques en demandant hier aux habitants de toute une partie du sud du pays d'évacuer. Emmanuel Macron a alerté hier Donald Trump et Benjamin Netanyahou sur la situation au Liban, demandant au Premier ministre israélien de préserver l'intégrité territoriale du pays et de s'abstenir d'une offensive terrestre. En Iran, de nouvelles explosions ont retenti cette nuit à Téhéran. Nous sommes en position de force, disait hier Donald Trump, tandis que la guerre continue de secouer le marché du gaz et du pétrole. En France, les prix à la pompe ont augmenté de quelques centimes. Les distributeurs seront reçus aujourd'hui par le ministre de l'économie. La croissance ralentit en Chine. Pékin prévoit une hausse de 4,5 à 5% du PIB en 2026. C'est l'objectif le plus bas depuis des décennies, après une croissance de 5% en 2025. La France ne sera pas représentée à la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques d'hiver de Milan demain soir, annonce hier de la ministre des Sports pour protester contre le retour des athlètes russes et biélorusses sous leur drapeau lors de la compétition.
France Info, édition spéciale.
Ils sont convoqués tout à l'heure au ministère de l'économie. Les distributeurs de carburant ont rendez-vous avec Roland Lescure. Le ministre dit vouloir s'assurer que les hausses de prix liées à la guerre au Moyen-Orient ne sont pas exagérées à la pompe. Les prix ont pour le moment augmenté de quelques centimes, a dit Roland Lescure sur France Info hier. Il ajoute qu'il n'y a pas de risque de pénurie. Il ne faut pas se précipiter dans les stations, mais le message a du mal à passer, par exemple à Belfort, Étienne Cholez.
Prix affiché, 1,77€ le litre de gasoil, 1,80€ pour le samplon 98 et 1,70€ pour le samplon 95. Marie, une retraitée, ouvre sa trappe à essence.
J'ai pas besoin du plein, j'en ai quand même encore très haut là.
Elle anticipe une envolée des prix.
Eh ben parce que je suis passée, j'ai vu que le prix était encore un peu attractif, si je peux dire.
Que vous craignez que ça augmente après?
Ah ben c'est sûr que ça va augmenter. La semaine dernière, j'ai commandé du fioul. Et pendant le week-end, il a pris 12 centimes.
Vous anticipez justement les conséquences de la guerre?
Je suppose, bien entendu. D'ailleurs, ce qui était marqué sur les journaux.
À la pompe d'à côté, Thibaut, un étudiant de 22 ans.
Je préfère faire le plein alors que j'étais à la moitié que d'attendre que ce soit vide et que l'essence augmente encore.
Ouais. Ça va augmenter pour vous?
Il y a de grandes chances. Surtout que j'ai entendu qu'il y avait les détroits qui étaient fermés, là où il y a le pétrole qui passe, si j'ai bien compris.
Le détroit d'Ormuz, entre le golfe Persique et l'océan Indien. 20% du pétrole mondial passe par ce point stratégique bloqué par l'Iran.
Donc forcément, ça va avoir un impact sur tout ce qui est prix du baril, prix à la pompe. Inévitable quand même.
Je vous pose la question, mais vous n'avez pas l'impression de commencer une pénurie alors qu'il n'y a pas besoin?
Ouais, j'y ai pas pensé. C'est possible. Ouais, je sais pas trop quoi vous répondre.
Non, non, les prix n'ont pas augmenté, ils n'ont pas pour vocation à augmenter.
Anthony Dugois, patron de l'Intermarché de Dell, il veut rassurer ses clients et éviter qu'ils se précipitent à la pompe.
Pour l'instant, il n'y a pas de nécessité à le faire. Il n'y a pas à avoir de psychose sur l'augmentation du carburant. Donc, faut pas rentrer dans une sorte de psychose ou en tout cas venir absolument remplir ses véhicules avec des jerrycans ou autres, parce qu'il n'y a pas de sujet en tout cas connu pour l'instant. À notre niveau.
De son côté, le gouvernement se veut aussi rassurant. Il peut y avoir une hausse de quelques centimes dans les prochaines semaines, mais pas plus. Il faut garder son sang-froid. Il n'y a aucun risque d'approvisionnement.
Le reportage d'Étienne Cholez pour France Info. Pas de risque de pénurie, dit le ministre. Roland Lescure ajoute avoir saisi la répression des fraudes pour multiplier les contrôles et s'assurer que les prix donc n'explosent pas dans les stations-service. Mais le gouvernement ne peut pas contraindre les distributeurs qui peuvent choisir librement leurs tarifs. 5h22 sur France Info, c'est l'heure du monde d'Élodie. Et toute cette semaine, vous êtes Élodie Suigo avec l'auteur, compositeur et interprète italo-belge Salvatore Adamo.
Bonjour Salvatore Adamo.
Bonjour Élodie Suigo, bonjour à toutes et à tous.
Notre histoire a commencé par quelques mots d'amour. C'est fou ce qu'on s'aimait.
Vous êtes l'invité de la semaine sur France Info dans le monde d'Élodie avec des dates de concert et cet album des Nefles et des Groseilles. Vous avez su nous bercer, nous guider, Salvatore, depuis les années 60 avec vos chansons qui sont devenues donc des repères. Vous nous dépeignez des gestes, des mains sur tes hanches tendres et donc pas baladeuses, je leur précise. Vous nous invitez à découvrir la nuit pendant que tout le monde dort. Vous nous avez emmenés au bord de la mer, le tout avec une bienveillance qui force le respect. C'est ce que raconte d'ailleurs le titre « C'est ma vie » qui avait été plébiscité, on était en 1975. C'est vrai que ce titre, il a beaucoup marqué. Encore aujourd'hui, quand on l'écoute, on a l'impression qu'il n'a pas pris une ride.
« C'est ma vie » est une chanson qui peut et qui a été comprise à deux niveaux. Pour moi, c'est une chanson dans laquelle je m'adresse à mon public. Et c'est une chanson qui, au Québec particulièrement, a eu deux carrières. Elle est sortie aussi en 75, mais elle a plutôt été comprise comme une chanson de couple. Et 20 ans plus tard, il y a eu une campagne pour le lait. Et au Québec, on a associé ma chanson « C'est ma vie » à la campagne du lait. Et les jeunes ont redécouvert cette chanson. Et je me souviens d'avoir fait une télé, la fièvre du samedi soir, où pendant toute la chanson, les filles criaient. Bon, ça fait plaisir.
Quand on parle de vous, Salvatore, on pense évidemment à toutes les collaborations que vous avez pu diriger, entre guillemets, vivre. On pense à Olivia Ruiz, pour commencer avec ce Georges. Je voudrais que vous me parliez de cette collaboration.
C'est nouveau français.
Voilà, parce que ce qui est assez fou, c'est que cette chanson, elle est vraiment ancrée en nous. Elle fait partie de nos vies.
Cette chanson, elle est née dans une loge. Vous avez reçu un couple et la dame fait des compliments, et elle me dit que sa maison est tapissée de mes photos et de mes posters. Et puis, du coin de l'œil, je regarde le monsieur qui, lui, n'avait pas l'air tout à fait d'accord et qui levait pratiquement les bras au ciel, qui n'en pouvait plus. Je dis, ça pourrait faire une chanson, mais je ne peux pas me l'attribuer, parce que c'est prétentieux, quoi. Donc, j'ai réfléchi et je me suis souvenu de ce que mon épouse était une grande fan de la série Urgence, et de Georges Clooney. Donc je l'ai attribué à Georges Clooney. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de plaisir à la chanter sur scène. Olivia l'a interprétée avec une gouaille magnifique, voilà. Je ne vois pas qui d'autre aurait pu le faire. Qui d'autre de son âge ?
C'est vrai qu'on aborde aussi toutes les collaborations qui vous ont suivi. Vous avez toujours eu le besoin de travailler avec d'autres, de chanter avec d'autres personnes.
C'est arrivé très tard quand même. À un moment donné, c'est Pascal Nègre qui m'avait proposé de faire un album de duo. Moi, j'ai dit, si vous vous en occupez, moi, je n'oserais pas appeler mes collègues pour leur demander de faire un duo avec moi, parce que je sais combien il est difficile de dire non et que je voulais pas embarrasser mes collègues. Donc, Pascal Nègre a délégué Alain Artaud, qui était directeur de Polydor à l'époque, et Alain Artaud a commencé à appeler ses artistes. Un jour, il m'appelle, il me dit « Alain Souchon a dit oui, Laurent Voulzy a dit oui, Yves Simon a dit oui, Juliette a dit oui, Morane a dit oui ». Pour moi, c'était presque un test à savoir dans quelle famille de chanteurs je pouvais prétendre me trouver. Et quand j'ai eu toutes ces bonnes informations, là, ces bonnes nouvelles, bien sûr que je l'ai fait avec grand plaisir. Arnaud, je lui avais demandé, il m'avait dit « oui, je te rappelle ». Il m'a rappelé alors que le disque était sorti. Il était comme ça, Arnaud.
Il y a une chanson qui est très très forte, c'est Justin, je t'aime, avec Camille. Là, il y a une fusion d'ailleurs, même pendant l'enregistrement. C'est une espèce d'harmonie, de symbiose qui
total,
se passe entre
total,
vous.
Total, avec son époux, Clément Ducol, qui dirige l'orchestre. On a chanté en direct avec l'orchestre, il y avait une soixantaine de musiciens. C'est devenu assez rare, ça. Et Camille a sorti une voix céleste, une voix qu'elle n'utilise pas beaucoup dans ses tours de chant. Elle a une voix de soprane, magnifique, d'un velouté, d'une délicatesse. Elle a vraiment sublimé la chanson.
Et en tout cas, elle est allée chercher la nuance. Et ça met en exergue que vous avez toujours eu ces nuances-là.
À mon insu, c'est encore dans mon caractère, là. La timidité intérieure qui fait que je n'éclate que quand il le faut. Sinon, j'essaie de suggérer les choses et de susurrer.
Ouais. Merci, Salvatore, de passer la semaine avec nous. Demain, ce sera le dernier épisode, dernier jour que nous allons passer ensemble sur France Info. Votre album des Nèfles et des Groseilles est disponible. Et je rappelle que vos dates de concert sont annoncées. N'hésitez pas à aller voir ce qui s'y passe. Vous serez notamment le 22 mars prochain à l'Olympia. Vous passerez également par Biarritz, Le Havre ou encore Clermont-Ferrand. À demain.
À demain, Élodie.
Je t'aime, oser les mots du cœur. Juste un je t'aime, faites-vous cette fleur.
À demain, Élodie Suigo. En attendant, le monde d'Élodie est à retrouver sur franceinfo.fr. Tout de suite, la météo.
France Info Météo, avec CIC, la facturation électronique arrive. Accompagner les entreprises dans leur transition, c'est ça construire pour que le monde bouge. Plus d'infos en agence CIC sur CIC.fr.
Avec Christine Peña, et les nuages remontent vers le nord aujourd'hui.
Mais oui, ils remontent effectivement vers le nord. Nous avons ce voile qui est légèrement coloré, et ça c'est dû à ces poussières de sable du Sahara, effectivement. On a une dégradation pour bien comprendre dans le sud, qui est due à une goutte froide qui s'est fixée entre l'Espagne et le Maroc. Une configuration qui est très favorable à ces remontées de poussière du désert, qui donne ces pluies salissantes. Donc des tempêtes de sable qui se produisent actuellement dans le désert font remonter ces poussières dans l'atmosphère et jusqu'en France. Alors c'est tout le sud et l'ouest du pays qui est concerné pour aujourd'hui, qui donne ce ciel parfois laiteux, légèrement coloré. Voilà, le mauvais temps devrait progresser vers les Baléares d'ailleurs aujourd'hui, renvoyer des pluies soutenues sur le Roussillon, sur les Pyrénées avec de la neige à partir partir de 2000 mètres d'altitude. Et ces pluies pourraient bien s'étendre par la suite sur davantage de régions du sud dans les prochains jours, durant notre week-end d'ailleurs. Eh bien, surtout dimanche, les premiers orages pourraient bien éclater. Et la semaine prochaine, eh bien, les températures auront légèrement baissé, parce que là, elles restent d'un bon niveau. Et la situation météo sera un peu moins favorable que cette semaine, avec des passages pluvieux assez réguliers, et ça un petit peu partout, pas que dans le sud. D'ailleurs, au nord, nous avons vraiment le soleil qui résiste, hein, au nord de la Seine, surtout pour aujourd'hui.
Merci beaucoup Christine Peña. Au menu de la prochaine demi-heure sur France Info, l'édition spéciale qui se poursuit. Édition spéciale consacrée au Moyen-Orient. Emmanuel Macron s'est entretenu avec le Premier ministre israélien hier soir. Il lui demande de ne pas mener d'opération au sol au Liban. La situation humanitaire sur place est très difficile. Que peuvent faire les ONG? Nous sommes avec Première Urgence Internationale dans moins de 10 minutes. Nous sommes aussi aux États-Unis avec les soutiens de Donald Trump. Que disent-ils de cette guerre? Et place d'abord à un nouveau journal à la une, les prix des carburants qui augmentent en France. Bienvenue si vous nous rejoignez sur France Info, il est 5h30.
France Info. Maureen Suignard.
Ils ont rendez-vous à 11h tout à l'heure. Les distributeurs de carburant seront à Bercy au ministère de l'Économie. Le ministre Roland Lescure veut éviter que les prix des carburants augmentent trop, alors que les prix du baril de pétrole augmentent sur les marchés à cause de la guerre au Moyen-Orient. Sophie Ovine, il y aura des contrôles au quotidien.
Et c'est la direction de la répression des fraudes, la DGCCRF, qui est chargée de suivre chaque jour la courbe des prix à la pompe. Alors à distance, comme peuvent le faire d'ailleurs les automobilistes sur le site internet prix-carburant.gouv.fr. En quelques jours seulement, dans les stations-service, rapidement, les prix ont augmenté de 5 à 10 centimes. Conséquence du coût du baril qui s'est rapproché des 85 dollars. Les professionnels prévoient au total un supplément de 15 centimes, tout au plus, tant qu'il n'y a pas de pénurie. Et pour l'heure, ce n'est pas le problème, car la France importe du Moyen-Orient 13% de son pétrole seulement. C'est cette cohérence entre cours mondiaux et prix à la pompe que Bercy veut maîtriser. Mais en réalité, contrôle ou pas, les gérants de stations-service sont libres de modifier leur prix à la hausse. Ils n'ont qu'un interdit, vendre à perte, et ce n'est pas le sujet du jour.
Sophie Ovine, les frappes israéliennes, américaines et iraniennes se sont poursuivies cette nuit. Hier, Emmanuel Macron a échangé avec les présidents américains et israéliens. Il a demandé à Israël de ne pas mener d'opération terrestre au Liban. Cette guerre, toujours au cœur d'un désaccord entre l'Espagne et les États-Unis. Mardi, le président américain menaçait directement l'Espagne de cesser tout commerce si le pays refusait que l'aviation américaine utilise des bases espagnoles. Hier soir, les Américains se sont félicités que l'Espagne accepte finalement de coopérer. Faux, répond le ministre des Affaires étrangères espagnol, qui dément catégoriquement. Et au contraire, le Premier ministre canadien déclare, lui, qu'il n'exclut pas une participation militaire de son pays aux côtés des Américains. France Info, il est 5h32. Le premier tour des élections municipales est dans 10 jours, tout pile. Nouveauté cette année, la place qu'a pris TikTok dans la campagne. Le réseau social sur lequel Jordan Bardella a été l'un des tout premiers politiques présents est un canal politique désormais très prisé. Le mois dernier, en février, le sujet des municipales a généré sur cette plateforme 53 millions de vues. Et pour se faire remarquer, Angélique Boin, il faut donc adopter les codes.
À 79 ans, Louis Nègre, candidat à Cagnes-sur-Mer, se lâche. Et cette vidéo, où il chausse des lunettes siglées à ses initiales sur fond de musique techno, fait mouche. À Reims, Stéphane Lang, candidat d'hiver droite, aligne lui 1 million de vues pour une vidéo d'un embouteillage devant une école, avec en commentaire la promesse de réorganiser la circulation en ville. Mais c'est à Paris que deux tiktokeuses font fureur. 10 millions de vues depuis janvier pour la candidate reconquête Sarah Knafo. On la suit sur les marchés ou en bateau.
Je suis sur le plus vieil et le plus bel axe de circulation de Paris, la Seine.
Plus de 4 millions de vues pour la candidate LR Rachida Dati, juchée ici sur un vélo électrique.
Tu montes pas avec nous ? Direction hôtel de ville.
Vidéo qui cumule plus de 600 000 vues. Pour Anaïs Loubert, experte en communication digitale, les vidéos TikTok plus intimes, souvent drôles, touchent des primo-votants ou abstentionnistes lassés d'une communication politique trop institutionnelle.
Une personne qui est majoritairement de gauche ne va pas, très peu, se mettre à voter à droite. Par contre, vous pouvez transformer un non-vote en un vote pour vous. Et c'est là où on a une différence.
Sans pour autant pouvoir le mesurer.
Angélique Bouin de l'agence de vérification de Radio France. Et aujourd'hui, France Info est en direct de Dunkerque tout au long de la journée pour des reportages, des interviews à l'approche de ces élections municipales. Un thème abordé aujourd'hui, la crise du logement et ses solutions. Il faut accepter la déception, glisse l'entraîneur de l'OM, Habib Bey. Les Marseillais éliminés de la Coupe de France de foot en quart de finale après une séance de tir au but face à Toulouse. Ce soir, l'Olympique lyonnais sera contre Lens en quart de finale. Ce sera à partir de 21h. Et demain, ce sera la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques d'hiver de Milan-Cortina. Une cérémonie dans un contexte géopolitique tendu, 4 ans après le début de la guerre en Ukraine et le bannissement des athlètes russes et biélorusses. Ces athlètes pourront de nouveau concourir sous leur drapeau. Alors, plusieurs pays décident de boycotter la cérémonie d'ouverture qui se déroule demain pour marquer leur opposition. La France vient de décider de n'envoyer aucun représentant du gouvernement, Noureddine Zidane.
Officiellement, on ne veut pas parler de boycott car la ministre des Sports sera présente sur les sites de Cortina et Tessero aux côtés des para-athlètes tricolores. Mais en ne participant pas à la cérémonie d'ouverture demain, tout comme à celle de clôture à ce stade, le gouvernement français veut montrer sa désapprobation politique à la décision du Comité international paralympique, celle d'inviter 10 athlètes biélorusses et russes pour ces Jeux avec leur hymne et leur drapeau. Une décision votée en Assemblée générale en septembre dernier. Le CPSF, Comité paralympique et sportif français, s'était prononcé contre, mais avait choisi de respecter la position majoritaire sans appeler au boycott comme plusieurs de ses homologues européens en soutien à l'Ukraine. Cependant, le CPSF avait annoncé l'absence de la délégation française à cette cérémonie d'ouverture, mais pour une raison purement logistique, les arènes de Vérone étant trop éloignées des sites des premières compétitions dès le lendemain matin, des athlètes qui seront en revanche bien présents pour la cérémonie de clôture dans 10 jours.
Noureddine Zidane sur France Info.
France Info. Édition spéciale, Maureen Suignard.
Un coup de téléphone hier soir entre Emmanuel Macron et Benjamin Netanyahou. Le président français et le premier ministre israélien se sont entretenus sur la guerre en cours au Moyen-Orient. Le chef de l'État français a demandé à Israël de s'abstenir d'une opération militaire terrestre au Liban. Israël frappe déjà largement le pays pour s'en prendre au Hezbollah, une milice pro-iranienne très puissante dans le pays. Des frappes qui ont déjà fait au moins 72 morts selon les autorités libanaises. Emmanuel Macron a aussi promis de prendre des initiatives immédiate face à l'urgence humanitaire. Elsa Sauftik est adjointe à la direction des opérations de l'ONG Première Urgence Internationale.
Absolument, il est urgent d'intervenir. Nous, Première Urgence Internationale, on est présent au sud Liban depuis 1996, donc on a répondu dès les premières heures et dès les premières évacuations des villages qui ont été bombardés ou sous ordre d'évacuation par l'armée israélienne. Les besoins sont immenses. Aujourd'hui, le chiffre officiel, c'est à peu près 65 000 personnes déplacées, mais on pense être plutôt autour de 180-190 000. Parmi nos propres équipes, nos personnels ont dû fuir leur village sous les bombes. On a environ 10% de notre personnel qui est déplacé également. Et ce qu'on constate, c'est du coup des déplacements massifs, des gens qui restent coincés longtemps sur la route pour pouvoir accéder à des endroits plus safe et qui sont hébergés soit pour ceux qui sont les plus chanceux dans de la famille ou des proches qui peuvent les accueillir, soit dans des abris collectifs, donc des écoles, des gymnases qui sont transformés en abris de fortune et qui accueillent un grand nombre de personnes. Donc la réponse est urgente et c'est aussi un très mauvais bis repetita ou déjà vu de l'automne 2024 qui avait poussé plus d'un million de Libanais sur les routes et en dehors de chez eux. Donc c'est aussi un souvenir encore très très frais dans la mémoire des Libanais. Donc c'est une situation extrêmement difficile. Et la sensation qu'on a, c'est que c'est un conflit qui va durer. Donc on a vraiment eu un besoin fort de soutien à la réponse humanitaire.
Le président français a parlé d'initiatives immédiates. Quelles sont pour vous les initiatives à prendre d'urgence ?
Je pense que d'un point de vue de la réponse humanitaire, il faut effectivement que la France continue son engagement auprès des ONG présentes au Liban, qu'elles soient les ONG internationales ou les ONG libanaises qui répondent, qui sont les sur la front line. Je pense qu'il faut aussi avoir des discours très très forts autour de la protection de l'espace humanitaire, la protection des civils. C'est extrêmement crucial que la population civile soit protégée de ces combats et que les parties au conflit respectent l'accès humanitaire. Il est important vraiment dans ces temps très troublés dans toute la sous-région de rappeler que les infrastructures civiles ne peuvent pas être la cible d'attaques, que les hôpitaux, les écoles, les camps de déplacés, les camps de réfugiés sont protégés par le droit international humanitaire et que les humanitaires et la délivrance de l'aide humanitaire doit être protégée. On a malheureusement un exemple extrêmement violent ces deux dernières années et demie à Gaza. On sait à quel point le droit international humanitaire est bafoué et on appelle vraiment de nos voeux que ce ne soit pas le cas au Liban.
Elsa Sauftic de l'ONG Première Urgence Internationale avec Julien Langlais sur France Info. Avec cette guerre qui se poursuit, le trafic aérien reste paralysé dans la région. Plusieurs dizaines de milliers de Français sont toujours coincés dans les pays du Golfe. Air France prolonge la suspension de ses vols vers le Moyen-Orient jusqu'à demain au moins. Les rapatriements organisés par la France, eux, se font au compte-gouttes. Isabelle Labéry, vous êtes à Dubaï pour France Info. Les Français qui doivent rester sur place commencent à se sentir un peu seuls.
Quand on était là, l'avion...
Depuis la plage de son hôtel, Roméo, 6 ans, est au spectacle.
On a entendu un gros pet, ça a pété fort, mais trop fort.
Ça va, t'as pas eu peur?
Non, c'est loin, ils font la gare plus loin, les militaires.
Il comprend, mais je pense pas qu'il réalise.
Le petit garçon a déjà raté sa rentrée en CP. Ses parents voudraient être rapatriés au plus vite, mais ils sont dans le flou.
On arrive à joindre personne. Les ambassades, on a essayé d'appeler. J'ai encore appelé 58 minutes là tout à l'heure. Personne répond.
Qu'est-ce qu'on fait? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il faut s'inscrire sur une liste pour le rapatriement? Certainement, mais où? Sur quoi? J'en sais rien. C'est pas avec deux vols par jour qu'on va réussir à faire quelque chose, en fait. C'est pas possible.
En attendant, le couple gère son exploitation viticole à distance.
Pour l'instant, ça fonctionne bien, mais il faut qu'on revienne quand même assez vite.
Les cas prioritaires, Julien, lui aussi, les a vus partir avant lui, mais il comprend.
C'est des gens avec des traitements très lourds à recevoir. C'est des nourrissons, c'est des personnes très âgées. Voilà les cas qui sont concernés dans l'immédiat. Et même cela, c'est au compte-gouttes.
Avec ses deux ados, il espère malgré tout faire partie des tout prochains vols.
On a prévu de tous faire nos valises, de plus laisser une brosse à dents à partir de 22h, d'être sur le qui-vive. Je vous dis la vérité, je pense que ce soir, je vais même pas dormir. Parce que je vais attendre un coup de fil. Ceux qui sont partis déjà, ils sont partis d'un coup d'un seul. C'est-à-dire, on leur a dit maintenant, tout de suite, en bas. Il faut s'attendre à un retour chaotique, on est prêt à ça.
Pour ceux qui restent, les autorités émiraties rembourseront les nuits d'hôtel. Dans son 5 étoiles sur une île artificielle,
ouais,
Fabrice prend son mal en patience.
Tout le monde a envie de partir avant que ça dégénère. Je suis avec ma femme et ma fille qui ont très peur, elles. Donc je prends sur moi. Et puis surtout, je ne sais pas ce qu'on peut faire, quoi. Et vous voyez, là, on entend un avion. Et on regarde, tout le monde regarde.
Elle a quel âge, votre fille?
16 ans. Nous, on lui disait, on sera content quand on aura quitté l'espace aérien de la région. Et elle nous a dit, mais moi je serai contente quand je serai à la maison.
Paris n'a donné aucune date pour le prochain vol d'évacuation.
France Info reportage de notre envoyée spéciale Isabelle Labéry à Dubaï. La solution est peut-être de quitter Dubaï, quitter les Émirats. C'est ce qui est proposé à Laetitia Gollard, une Française qui habite dans les Vosges et qui est coincée aux Émirats alors qu'elle rentrait de Thaïlande. Elle est très stressée, elle se demande quels sont les risques de se déplacer seule dans la région. Elle voyage avec un groupe de 11 Français dont 5 enfants.
On est un groupe de 11 Français, 5 enfants, on rentre de Thaïlande. On avait une escale à Sharjah pour repartir vers Milan et arrivé à Sharjah, on se retrouve avec un vol annulé. Donc après des heures et des heures et des heures à l'aéroport, on nous a attribué un hôtel à Sharjah. Et on nous avait replacé sur un vol, malheureusement tous séparément, hein, donc du coup un vol demain, samedi et dimanche. Et aujourd'hui, c'est avéré que tout est annulé. Impossible de joindre la compagnie aérienne. On appelle l'ambassade, ça ne nous répond pas. C'est nos familles en France qui réussissent à les contacter. Et la seule chose qu'on nous dit, c'est de rejoindre Oman ou l'Arabie Saoudite par nos propres moyens. avec des enfants en bas âge et évidemment à nos frais. Sauf que rejoindre Oman à 5 heures de voiture, on n'en a pas les moyens en fait. Il y a pas de possibilité. Donc aujourd'hui, il y a pas de rapatriement pour nous. On a zéro solution et on nous a annoncé qu'il y aurait pas de vol vers l'Europe avant le 23 mars, sans nous mettre sur un vol. Sans être inscrit sur un vol. Donc voilà, nous on jette une bouteille à la mer et on demande de l'aide en fait, on demande des réponses et concrètement on veut rentrer quoi, n'importe où en Europe, mais on veut rentrer.
Je sens un petit peu de détresse, un peu de panique dans vos propos. Ouais. Je vous sens sans solution. Quelles sont les conséquences pour vous ? Vous devez rejoindre les Vosges, c'est ça hein ?
Oui, tout à fait. Les conséquences, elles sont que on peut pas rejoindre on travaille quoi. Donc financièrement, ça devient compliqué. On a des enfants qui ne vont pas à l'école. Ça devient très compliqué. Puis on a zéro réponse. Donc on se sent complètement démunis, abandonné, sans explication. On passe des heures et des heures au téléphone. On est en hors forfait. On angoisse pour nos enfants, ça devient compliqué, très stressant et épuisant.
Que vous répond la compagnie aérienne et qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui, par exemple, peut-être aux autorités françaises ?
Aujourd'hui, on veut des réponses. Les compagnies aériennes, elles ne répondent même pas au téléphone ni à nos mails. Donc, en fait, on souhaite juste un vol, une date, mais quelque chose de concret en fait, parce que là, on nous a remis sur deux vols, à chaque fois, c'est des annulations successives. Donc, on entend les informations dire qu'il y a des rapatriements qui se font, mais personne ne nous contacte. L'ambassade, ce matin, nous a dit concrètement de la solution, c'est de rejoindre Oman ou l'Arabie Saoudite par nos propres moyens. Et derrière, on nous dit qu'il faut rester en sécurité à l'hôtel. C'est totalement contradictoire, en fait. Donc, on sait même pas comment rejoindre Oman en fait. On nous attribue pas de bus, de transport, et on a 5 enfants. Donc vous comprenez que c'est quand même risqué en fait. On n'a pas envie de prendre de risques et on n'est même pas sûr d'avoir un vol en plus. Donc on veut des réponses en fait, une date.
Qu'est-ce que vous allez faire ?
Voilà, qu'ils fassent pression peut-être, que l'État fasse pression quand même sur les compagnies aériennes ici pour nous faire rentrer, parce que
Là,
on voit d'autres nationalités repartir, mais tout ce qui est européen, ça repart pas en fait, et on s'inquiète vraiment quoi.
Laetitia Gollard, française, qui est donc à Dubaï en ce moment, elle répondait aux questions France Info de Julien Langlais. Donald Trump peut-il perdre ses soutiens à cause de la guerre en Iran ? France Info reportage dans une minute, direction les États-Unis auprès de supporters du président américain. Tout de suite un point complet sur l'info.
France Info, 5h-6h.
5h47, en l'info en une minute avec vous, Laura Dulieu. Et à la une ce matin, Israël, de nouveau en état d'alerte cette nuit.
Après le lancement de missiles iraniens, pour autant les États-Unis et Israël affirment que la résistance de l'Iran faiblit. Hier, un sous-marin américain a coulé un navire de guerre iranien dans l'océan Indien. C'est une première depuis la Seconde Guerre mondiale. Et les autorités sri-lankaises font état d'au moins 87 marins tués et des dizaines de disparus. Tandis qu'Israël continue de bombarder le sud du Liban, forçant plus de 80 000 personnes à partir de chez elles. Et les jours du collégien poignardé hier par un camarade à La Rochelle ne sont a priori pas en danger. Ça s'est passé hier matin pendant un cours de physique-chimie. L'élève agresseur a été placé en garde à vue pour tentative de meurtre. Le Brésil ratifie officiellement l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays sud-américains du Mercosur. Il ne manque désormais plus que le Paraguay. Alors que côté européen, le traité sera bien impliqué provisoirement, selon la Commission, malgré la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne par le Parlement européen. Il faut accepter la déception et la colère des supporters. Les mots de l'entraîneur de l'OM après son élimination en quart de finale de la Coupe de France face à Toulouse hier soir. Ça s'est joué au tir au but. Dernier quart de finale ce soir. Lyon reçoit le RC Lens à 21h.
France Info, édition spéciale.
Israël se félicite ce matin. Le pays a réalisé des avancées historiques avec les États-Unis. L'État hébreu poursuit sa guerre en Iran et au Liban. Et le secrétaire à la défense, l'américain Pete Hegseth, affirme que l'intervention militaire américaine en Iran n'a pas encore atteint sa pleine puissance. Pourtant, les Américains sont majoritairement opposés à cette guerre. Camille Manière, vous êtes notre correspondant aux États-Unis. Qu'en pensent alors les électeurs de Donald Trump? Vous êtes allé les sonder près d'Atlanta, en Géorgie.
Dans ce comté de Paulding, un bastion conservateur, on vote en ce moment. Élection partielle pour remplacer au Congrès Marjorie Taylor Greene, figure du Trumpisme, devenue l'une de ses plus farouches critiques. Elle est très hostile, par exemple, à la guerre en Iran. Mais à la sortie du bureau de vote, Ali, jadis électrice de Taylor Greene, prend ses distances avec son ancien élu.
Je suis tout à fait d'accord avec ce qui se passe en Iran. Ça me fait mal que des gens meurent, mais le régime iranien lui aussi tue des gens tout le temps.
Et tant pis si Donald Trump s'est fait élire sur la promesse de ne plus engager son pays dans des guerres sans fin ou de ne plus renverser des régimes un peu partout dans le monde.
Si dans un mois, on s'en est sorti, l'Iran ira mieux, nous aussi, ça ira mieux sans la menace nucléaire iranienne, alors les gens vont se calmer, mais pour le moment, c'est vrai que ça divise beaucoup.
Sur le bulletin de vote, pas moins de 12 candidats sur 18 sont issus du Parti républicain. Tous affichent leur loyauté au président Trump et la plupart approuvent l'intervention en Iran. Pour Marty, venu lui aussi voter, c'est comme une évidence.
Est-ce qu'on aurait dû attendre qu'ils aient l'arme nucléaire et qu'ils la lancent sur un pays? On sait qu'ils voulaient détruire Israël. Est-ce qu'il aurait mieux valu attendre qu'ils le fassent?
Sur le parking du supermarché voisin, Paul pousse un caddie vers son pick-up. Lui aussi est électeur républicain. Il n'approuve pas tout ce que fait Donald Trump, mais s'en remet à sa décision sur l'Iran.
On soutient le président sur l'Iran. Je ne sais pas si c'est pour ça qu'il a été élu, mais ça fait des décennies que l'Iran réprime son peuple, les femmes en particulier. Et en plus, avec l'arsenal nucléaire qu'il construisait pour peut-être viser les États-Unis, je pense que c'était la bonne décision.
Paul, comme tous les autres, ne semble pas très inquiet des conséquences à long terme de ce conflit pour l'Iran et pour tout le Moyen-Orient. Pour l'heure, s'il a une critique à faire à l'administration Trump, c'est plutôt sur sa politique économique dans un pays où nourrir correctement sa famille coûte toujours plus cher.
On vient de faire les courses. On aimerait bien avoir un meilleur pouvoir d'achat, mais on s'en sort.
Camille Manière, le correspondant de France Info aux États-Unis. Mais ces frappes américaines et israéliennes en Iran ont forcément des répercussions directes sur les habitants du pays. Il reste difficile de contacter des Iraniens. Le réseau Internet est toujours coupé. Nous avons joint de notre côté Aïda Tavakoli. Elle est doctorante franco-iranienne, fondatrice et présidente de l'association We Are Iranian Students. Ses parents sont bloqués à Téhéran à cause de la pénurie d'essence sur place.
Oui, les communications Internet sont coupées. Donc les seules communications qu'on peut établir sont celles par les lignes téléphoniques classiques. Et avec cet ancien système de triangulation, avec une ligne croate qui a été empruntée pour que je puisse entendre la voix de ma cousine qui m'expliquait que les frappes étaient extrêmement proches de notre quartier, qu'elles avaient soufflé les fenêtres, que le son était très impressionnant. Et donc elle me disait ça frappe tout le temps, le matin, le midi, le soir, la nuit. Et on sent que l'excitation peut-être du début avec la mort du guide dès le premier jour a laissé petit à petit la place à la grande angoisse de cette séquence guerrière.
Est-ce qu'elles ont essayé de partir de la capitale?
Eh bien, malheureusement, ce n'est pas possible. Je lui ai posé la question. Elle m'a expliqué que toutes les routes qui permettent de sortir de Téhéran, en réalité, sont fermées par des checkpoints qui ralentissent énormément le trafic et donc créent des embouteillages de plusieurs heures. Et comme les pompes à essence sont soit détruites par les bombardements, soit fermées, eh bien, il y a cette angoisse de tomber en panne au milieu de la route et ne pas pouvoir fuir et donc être prise au piège sous les bombes. Donc, les Téhéranais qui ne sont pas partis aujourd'hui sont pris au piège dans la capitale.
Vous dites pris au piège?
Oui.
Pourquoi?
Ils sont pris au piège. C'est une stratégie du régime islamique qui souhaite avec cette martyriologie très spécifique à ce régime, eh bien, augmenter le nombre de morts civiles de manière à pouvoir nourrir sa propagande anti-occidentale. Et bien sûr, ce sont les civils qui en font les frais. On est dans une situation un peu particulière quand même, où deux pays se font la guerre, mais l'un d'entre eux ne protège absolument pas sa société civile. Et on l'a vu d'ailleurs, en janvier, il est prêt à la tuer autant qu'il faut pour se maintenir au pouvoir. C'est pour ça que cette séquence est aussi angoissante.
Comment votre famille arrive à survivre là-bas? Est-ce qu'il y a encore de quoi manger, de quoi vivre?
Écoutez, la situation économique déjà rendait la satisfaction des besoins premiers déjà très difficile avant cette séquence guerrière. Maintenant, il y a beaucoup de magasins qui n'ouvrent que le matin. C'est la peur au ventre et avec des moyens économiques extrêmement limités que la population peut se rendre dans les magasins et trouver ce qu'elle peut pour pouvoir se nourrir. Il faut savoir qu'il y a aussi des coupures d'électricité très fréquentes, des coupures d'eau aussi, puisque depuis l'automne dernier, on est dans une situation de faillite hydrique en Iran. Donc c'est la population la plus nombreuse du Moyen-Orient, la plus instruite aussi, l'une des plus jeunes, qui est complètement prise au piège dans cette séquence.
La vie s'est arrêtée, est-ce qu'il y a des abris? Quel est le quotidien de votre famille, de vos proches qui sont restés à Téhéran?
Eh bien malheureusement non, il n'y a aucun abri. De toute façon, la protection de la vie et de la vie des civils notamment n'est absolument pas un sujet pour le régime islamique. Il s'est établi au pouvoir à travers la guerre Iran-Irak qui a duré pendant 8 ans entre 1980 et 1988 et s'est nourri du demi-million de morts que cette guerre a causé avec cette martyrologie. Chaque mort, en réalité, les renforce. Donc, ils ne sont pas du tout dans une logique, et ne l'ont jamais été, de protection de la vie. Ils sont dans une logique de martyrologie et de tuerie aussi, de masse des civils pour se garder au pouvoir.
Aïda Tavakoli, doctorante franco-iranienne, dont les parents sont toujours à Téhéran. Elle répondait aux questions France Info de Julien Langlais. Il est 5h56, place à l'Actu Éco avec Emmanuel Cuny. Bonjour.
Bonjour à tous.
Le réveil de l'éco avec le Crédit Coopératif. Banque engagée à vos côtés pour un monde plus durable et inclusif. Crédit Coopératif, une autre banque est possible.
Toute l'actualité économique en trois titres tous les matins avec vous Emmanuel. On commence avec Amazon qui devient le premier commerçant en Europe.
Oui, le géant américain de la distribution en ligne et des services informatiques détrône la chaîne de distribution Lidl. Amazon se hisse à la première place du classement établi par le cabinet Retail City, qui fait foi en la matière. Première place en termes de volume de vente. Alors ce changement sur le podium qui concerne l'Europe continentale et le Royaume-Uni prouve que, eh bien oui, face au commerce physique, la croissance du secteur de la distribution se trouve désormais du côté du e-commerce.
Google lance aussi un centre géant d'intelligence artificielle en Allemagne.
À Berlin précisément, en accueillant le groupe informatique américain, l'Allemagne entend rattraper son retard dans ce secteur en pleine expansion. Le projet fait partie des 5,5 milliards d'euros d'investissement de Google dans l'avenir numérique de la première économie européenne, avant tout dans le développement de centres de données. Alors ce nouveau site regroupera des infrastructures d'informatique à distance, le cloud, et un espace de coopération entre start-up et centres de recherche.
Et puis, troisième info, la Chine prévoit un nouveau ralentissement de sa croissance économique.
Oui, elle se fixe à un objectif de croissance de 4,5 à 5% cette année. Alors selon ces chiffres officiels communiqués par le pouvoir communiste en place à Pékin. Cette perspective est présentée comme la plus basse depuis des décennies. Le géant asiatique annonce par ailleurs que son budget défense, le deuxième mondial loin derrière les États-Unis, augmentera de 7% cette année.
Emmanuel Cuny, on vous retrouve dans une demi-heure sur France Info pour le Brief Éco.
L'IA, encore et toujours, rien n'indique que l'intelligence artificielle supprime des emplois en Europe. C'est le constat dressé par une note que publie la Banque Centrale Européenne après avoir interrogé 5000 entreprises. Une étude qui vient remettre en question quelques idées reçues.
Merci beaucoup Emmanuel Cuny et à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
5h58, place à un peu de douceur avec la météo qui arrive.
France Info Météo avec CIC. La facturation électronique arrive. Accompagner les entreprises dans leur transition, c'est ça construire pour que le monde bouge. Plus d'infos en agence CIC et sur cic.fr.
Et forcément, la douceur, c'est avec vous, Christine Peña. Oui. Les températures sont toujours aussi élevées pour la saison.
Oui, alors l'après-midi, parce que le matin, quand même, ça pique un peu. Nous avons des températures. Alors, pas de zéro aujourd'hui, mais on est à 3-4 degrés à peine sur le nord-est du pays. Uniquement près des côtes, nous avons du 10 à 12 degrés, que ce soit Atlantique comme Méditerranée pour ce matin. Et c'est vrai que cet après-midi, ça s'envole de nouveau. 17 degrés, ça sera la température la plus basse. Et c'est à Caen, comme à Dijon, comme à Montauban et Tarbes. 18 à Lille, à Paris, à Lyon, à Limoges, à Montpellier. Toujours cette masse d'air très homogène. 19 du côté de Reims, de Bourges, de Clermont-Ferrand, de Bordeaux. 22 à Ajaccio. Et toujours ces pluies sur le Roussillon et qui se décalent sur les Pyrénées cet après-midi.
Merci beaucoup Christine Peña, 5h59 sur France Info, c'est déjà l'heure de retrouver mais Adrien oui. Beck. On est presque en avance, c'est le début du 6-9, bonjour Adrien.
Bonjour ma chère Maureen, bonjour à tous et bonjour Christine.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Très bien.
Bon, je salue également Sarah Ders, bonjour,
bonjour
Sarah. On vous retrouve dans quelques secondes pour le journal de 6h. Avant cela, je vous donne un mot de la tonalité de votre 6-9, évidemment, guerre d'Iran jour 6. On va vous expliquer que pourquoi l'Iran n'est toujours pas à genoux malgré des coups de bouton des deux plus fortes armées du monde. Rendez-vous pour ça à 6h30. Et puis une question qui vous concerne directement, on va en parler dans le journal. Les prix des carburants vont-ils passer les 2 euros le litre? Vous l'avez remarqué, ça a déjà bien augmenté. Les grandes surfaces sont-elles en train d'en profiter? Tiens, à 7h10, nous aurons le patron de Super U qui répondra à toutes nos questions. Voilà pour une partie du programme. Merci d'être avec nous sur France Info. Vous êtes les bienvenus. Il est tout juste 6h.